Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Et c'est encore une occasion de vous souhaiter une bonne et douce année, puisqu'on est au début de cette année. C'est le toute première émission dans cette nouvelle année qu'on espère qu'elle soit une bonne et douce année. On va faire quand même un petit, différemment que chaque fois, on va faire un petit tour de ses significations, parce que chaque fois on essaie de parler d'un sujet, mais cette semaine on a plusieurs sujets en même temps, donc on va essayer de faire un petit tour autour de ces idées de Rosh Hashanah, Kippour et ce qu'il y a en milieu, parce que en réalité le fait de Tishri dans la fête de pendant les fêtes, les différentes fêtes du mois de Tishri, normalement il y a deux parties. Deux parties que parfois on les a vues comme deux unités qui ne sont pas liées l'un avec l'autre, mais c'est surtout, selon la Kabbale, tout est lié en général, mais selon la Kabbale, non seulement que c'est lié, c'est vraiment ensuite. Donc dans la Kabbale, on développe beaucoup cette idée. Mais tout d'abord, la première partie de mois de Tishri, c'est les deux fêtes de Rosh Hashanah et Kippour. Ensuite, il y a 4 jours. Et ensuite, il y a la deuxième partie, que c'est plutôt une partie plus joyeuse. Non seulement que c'est plus joyeux, c'est une période que leur sujet, c'est la joie. Ça veut dire qu'il faut être toujours joyeux selon la loi juive. On est obligé d'être joyeux. Il faut trouver un moyen d'être joyeux. Et on a vu il y a 2 semaines, dans la paracha de la semaine, que c'est très grave de ne pas être joyeux. Comment faire? C'est notre question. Mais en tout cas, dans l'esprit juif, il faut être joyeux. Mais il y a une période où c'est la période de la joie. Donc la période de la joie, c'est cette deuxième partie du mois de Tishri, où il est marqué que c'est la période de la joie. Ça s'appelle Zman Simchateinu. Donc on a deux parties. La première partie du mois de Tishri, c'est une partie plutôt solennelle, sérieuse, très sérieuse même. Pas triste, mais on a ce même contre la tristesse. L'exemple que parfois on donne, que je pense que ça peut être un exemple pour ça, vous voyez que dans le mariage, il y a deux parties. Il y a les parties solennelles, que c'est très mouvementé, et les parties plutôt joyeuses. Certains appellent les parties religieuses, les parties civiles, en fait pas civiles, mais en vérité c'est pas vrai, parce que la religion c'est pas hors de la joie, le contraire, si on est joyeux, on est religieux, ou plutôt le contraire, si on est religieux, on est joyeux, et sinon il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est deux parties dans la même unité quelque part, les parties solennelles, et les parties joyeuses. Et parfois, dans le chassidut, on explique le contraire. Plus qu'on est, on est dans ce mouvement solennel dans cette période, on est joyeux dans l'autre période. Mais nous, on va plutôt parler de la première partie, puisqu'on est encore dans cette première partie. Donc, on est dans la partie de Rosh Hashanah et Kippour, et on est entre les deux. On est tout au milieu aujourd'hui. On est le 4e jour du mois de Tishri. Alors, cette période s'appelle Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de Teshuva. Teshuva, ça veut dire repentance, regret. C'est 10 jours où on nous demande de faire un effort, de changer des choses. Toujours, il faut changer des choses. Mais il y a la période. On est dans cette période où on change les choses. Pourquoi 10 jours? Et pourquoi, quel rapport avec Rosh Hashanah et Kippour? Alors, parmi les idées, c'est que ce qu'on a touché un petit peu au niveau historique, il y avait quelque chose au moment de Rosh Hashanah, et au niveau historique, il y avait quelque chose au niveau de Yom Kippour. Et ça fait, même si ce n'était pas du tout dans la même période, c'était plusieurs siècles, un siècle de différence, même beaucoup plus, mais quand même, c'est, on retient parce que l'idée se répète, ce qui s'est passé, surtout les choses importantes qui se sont passées une fois, ça se répète chaque année. Alors donc, Rosh Hashanah, c'est une répétition pour ce qui s'est passé la première fois, Rosh Hashanah. Et Kippour, c'est la répétition de ce qui s'est passé, Kippour, mais beaucoup plus tard. Alors, Rosh Hashanah, on a parlé un petit peu, mais on a parlé plutôt de cette notion que c'était la création de l'homme et la femme, que c'était en deux parties, et c'est deux sujets qui sont différents, et c'est très important dans la Kabbale, comme on a vu déjà un petit peu, on a touché un petit peu à ce sujet, mais aussi, c'est la première fois où Dieu il a jugé l'humanité, donc après l'acte qu'il a mangé, l'homme et la femme, ils ont mangé le fruit qu'ils ne devraient pas manger. À ce moment-là, ils ont été jugés. Bien, là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails. Et pourquoi et comment, mais en tout cas, c'était le premier jour de la justice. Et depuis alors, c'est le jour de la justice. Ça tombe bien parce que c'est aussi le début de l'année. Donc, ça veut dire on sait que le monde a été... On a un petit peu touché la semaine dernière que ça veut dire que le monde a été créé à ce moment. Mais, bien, on ne va pas revenir maintenant. Et donc, c'est le début de l'année. Et c'est le jour aussi du jugement. Et c'est ce qu'on a dit dans notre prière de Rosh Hashanah. On a parlé des jours de justice. Un petit peu. Il y a d'autres sens. Et ensuite, il y a 10 jours après... c'est le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est le jour de grand pardon, tout le monde connaît. Mais au niveau historique, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au niveau historique, il s'est passé quelque chose. Alors, ça, c'était après la faute de Vaudor, où Dieu il était en colère, comme il est marqué dans la Torah. Et Moshe, il a fait son travail de lier entre les deux parties, le peuple et Dieu. Et il est marqué qu'il a descendu, il a fait ce qu'il a fait. Ensuite, il a remonté sur le mont Sinaï. À ce moment-là, il a prié pendant 40 jours. Et il a demandé le pardon pour le peuple d'Israël, que ce pardon était accordé à la fin des 40 jours. Mais ce n'était pas un pardon complet. C'est comme quelqu'un qui... Deux personnes qui sont... Ils ont été très amis, très... ils ont eu de très bonnes relations et d'un coup il y a un qui a fait quelque chose contre l'autre, donc ça crée pas une haine peut-être, mais une tension entre les deux. Et ensuite on arrivait à arranger, donc le conflit est arrêté, mais ça ne va pas forcément dire qu'on a retrouvé la même amitié qu'avant. Il y a parfois où il y a des gens qui m'ont fait, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose, donc je ne lui dis rien, et je ne lui montre pas que je suis en colère, et pourtant, à l'intérieur, c'est difficile de renouer, de faire, d'être comme avant. Mais ça, c'était donc les 40 jours, le premier 40 jours qui se terminait fin mois de Av, parce qu'on a 40 jours depuis le 17 Tammuz. Donc le lendemain de Tammuz jusqu'à 40 jours après, ça fait 29 Av normalement. Il y a des façons de voir, mais en tout cas, fin Av, 40 jours. Et ensuite, Moshe il a descendu, cette fois-ci Dieu lui demande de refaire la table de la loi. Donc la table, il prépare la table, il remonte. À ce moment-là, il remonte pour qu'Hachem écrit dessus les 10 commandements à nouveau. Mais cette fois-ci, il a fait une autre sorte de travail qu'au bout des 40 années, il a eu le pardon, mais cette fois-ci avec volonté. Ça veut dire que le pardon à ce moment était comme quelqu'un qui retrouvait son ami de l'époque. Il l'a retrouvé, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Donc, ils se sont retrouvés comme avant. Et là aussi, le jour de Kippour, ce n'est pas un pardon simple, c'est un pardon profond, comme si rien n'était. Donc ça, c'est le jour de Kippour la première fois, et à partir de là, ça restait comme ça, et dans la Torah, il est marqué que tel jour, donc c'est le deuxième jour du mois de Tishri, qui correspond à cet amour sans fin, et ça correspond à cette retrouvaille, mais pas retrouvaille seulement physique, c'est aussi retrouvaille spirituelle, retrouvaille amoureuse quelque part entre Dieu et le peuple, à tel point que parfois on dit que ça se dépasse, le contraire. C'est que deux amis qui ont été amis, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Il y a parfois où il y a l'amitié, mais après ça ne dure pas. Mais parfois, après une crise, et qu'on arrive à réparer la crise, on la répare bien, alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus solide. Donc, alors, c'est ça qui représente, en général, le jour de Kippour, c'est le retrouvaille, mais pas seulement le retrouvaille d'une façon très, très profonde, même avant même les choses, avant même la faute. Donc, quelque chose... Comme d'autres exemples qu'on a, que quelqu'un, il a marqué cette image dans le Talmud, il y a cette image qu'on a un contrat de, par exemple, d'achat ou un contrat de prêt. Ce contrat, il y a une personne qui représente ce contrat devant l'autre, son créancier, il lui dit « Voilà, tu me dois tant. » Et l'autre, il dit « Non, c'est pas vrai. Il y a des témoins. Alors, non, c'est vrai, c'est pas vrai. » Et finalement, on a le juge, le tribunal a cherché et ils ont trouvé, ils ont arrivé à confirmer ce contrat. Donc, cette fois-ci, ce contrat, il est beaucoup plus fort qu'avant. Parce qu'avant, on compte sur le contrat, mais parfois on peut dire oui, il y a un problème. Mais une fois que, après des recherches, après des problèmes, on confirme, alors ce contrat il est beaucoup plus fort. Là aussi, quelque part, quand on est bien là avec l'autre, c'est bien, c'est solide. Mais si on ne sait pas ce qui va se passer, si il y aura tel et tel problème, mais s'il y avait le problème, et après le problème, on arrivait à s'arranger. Donc, alors, à ce moment-là, on considère que c'est beaucoup plus solide. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet déjà à part, mais quand même, on va juste signaler qu'on dit que, comme on a dit tout à l'heure, que même si qu'il y a deux parties d'un mois de Tishri, mais ils sont liés, surtout selon la Kabbale, et c'est pour ça qu'on fête, à la fin de la fête de Tishri, on va fêter la fête de Simchat Torah. Simchat Torah, c'est la joie avec la Torah, on danse avec la Torah parce qu'on a terminé la Torah et on va recommencer la Torah chaque année, donc on a cette habitude. Mais on lit la Torah pendant une année entière et donc on commence le Shabbat tout de suite après Simchat Torah. On termine le jour de Simchat Torah. Mais pourquoi la joie de la Torah à ce moment? On devrait peut-être fixer autrement. Qu'on commence après le don de la Torah. Le don de la Torah qui était plutôt dans le mois de Sivan, qui correspond à peu près au mois de mai, joie. Et pourquoi on le fait maintenant? Alors, parmi les raisons, c'est justement que le jour de Kippour, Dieu il a donné le deuxième table de la loi. C'est vrai que le jour de Shavuot, Dieu il a donné le premier table de la loi, mais ça n'a pas duré. Et le deuxième... Le deuxième table de la loi a été donné le jour de Kippour. Alors à ce moment-là, c'est comme on a dit, comme on vient de dire, quelque chose qui était un amour ou bien des contrats qui étaient... Il y avait un problème avec ce contrat. Un amour qui était déstabilisé. Ensuite, on arrivait à restabiliser, on arrivait à remettre en place. C'est beaucoup plus solide. Donc, alors aussi, la Torah, quelque part, qui a été donnée le jour de Kippour, donc le deuxième table de la loi, et qui, à ce moment-là, s'est venue avec le pardon profond et amoureux. Alors, à ce moment-là, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus solide. Et puisque c'est beaucoup plus solide, alors c'est ça, et c'est pas seulement c'est beaucoup plus solide, ça vient pas seulement de la part de Dieu, ça vient aussi de la part de l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui l'a changé, l'homme qui l'a il a retourné. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus solide. En tout cas, c'est pour ça qu'on fait Simcha Torah, parce que la vraie joie de la Torah, c'est une fois que, non seulement qu'elle était donnée de là-haut, c'était aussi accepté, même qu'après des difficultés, après des fautes, mais était accepté par les gens d'en bas. Donc, alors ça, c'est la vraie joie de la loi, parce que, de la Torah, parce que qui a la Torah, c'est pas que j'ai la Torah parce qu'on m'a donné de là-haut, j'ai la Torah parce que moi aussi, je fais partie. En tout cas, ça, c'est un petit peu l'idée. Et, alors, on ne fête pas le jour de Kippour. Le jour de Kippour, ce n'est pas un jour de joie visible. Ça veut dire qu'on ne danse pas dans la rue, forcément. Si on peut dire comme ça, mais c'est un joie intérieure, c'est quelque chose de solennel, mais la joie de Rosh Hashanah et Kippour s'éclate plutôt plus tard, comme on a dit. Mais là, on est encore dans cette période de Rosh Hashanah, donc on va rester plutôt dans cette période de Rosh Hashanah. Alors, on a dit comme ça tout à l'heure, que Rosh Hashanah au niveau historique, c'est la première fois où il y avait le jugement de l'homme. Et Yom Kippour au niveau historique, c'est la première fois, en tout cas, où ça marque le pardon de la part de Dieu, mais pas un pardon simple, un pardon profond et joyeux et amoureux. Ça veut dire comme quelqu'un qui, comme deux personnes qui se renouent, mais d'une façon très très forte. Et à partir de là, ça devient le symbole, chaque année, Rosh Hashanah, les choses qui s'est passées la première fois se répètent, et Yom Kippour, les choses qui s'est passées la première fois se répètent. Et entre les deux, il y a 10 jours. Comme ça, il est marqué dans le Talmud. Il y a 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Même si, en vérité, il n'y a pas 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, il n'y a que 7 jours. Mais, la réponse est très simple, c'est qu'avec Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours. Mais en vérité, le rabbi, il insiste un petit peu sur cette idée que puisque le Talmud est exact, et on dit qu'il y a 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, ça veut dire que vraiment il y a entre l'un et l'autre Kippour. Et là, il explique, que je vais essayer de dire en mots simples, parce que c'est un sujet un peu sensible, et un petit peu profond. Et il dit comme ça que la raison des pardons, pourquoi on pardonne? S'il y a des lois, il y a les gens qui ne se comportent pas bien. Pourquoi pardonner? La loi, c'est la loi. On est dans une période de la justice à droite et à gauche. On entend que tel était jugé, tel était jugé. Et nul, comment il ne dépasse pas la loi. Bien que... alors, ça veut dire que finalement, si il y a des lois, si... il y a de la justice. Donc, de quelle façon je me dis, oui, j'ai fait des choses qui ne sont pas correctes, et pourtant, pardonne-moi. Pourquoi pardonner? Alors, la raison, c'est puisqu'on a Rosh Hashanah d'un côté et Yom Kippour d'un autre côté. C'est ça la raison qu'on a au milieu les jours de Tshuva, de repentance. Ça veut dire comme ça, que Rosh Hashanah représente quelque chose de très très fort, qui dépasse tout... qui dépasse tout. Yom Kippour représente une autre chose qui dépasse tout. Normalement, on dit que c'est vrai que nul, je ne sais pas comment dire ces phrases, mais en tout cas, l'idée est la même, nul ne dépasse pas la loi. Et pourtant, c'est vrai que quelque part, ce que représente Rosh Hashanah et Kippour, c'est oui qu'on dépasse la loi. Et pourtant, il faut respecter la loi. Ça veut dire que, d'une part, Rosh Hashanah, c'est un jour énorme. C'est un jour où on nous donne des possibilités de changer des choses. Rosh Hashanah, on nous dit que vous, avec vos sonneries de chauffard, et d'une façon générale, avec votre travail, avec notre travail, on peut changer les données du monde, on peut changer les destins du monde. C'est pour ça qu'on sent les chauffards. C'est vrai qu'on sent les chauffards parce que la Torah nous demande, et il y a beaucoup de symboles, mais il y a quand même le symbole qu'il faut savoir, c'est... c'est vrai qu'on peut faire des choses sans comprendre à quoi ça correspond, comme la majorité des choses et la majorité des gens qui font des choses sans savoir et sans comprendre. Parce que heureusement que le monde était bien arrangé pour nous, que ça suffit parfois d'appuyer sur le bouton et ne pas savoir ce qu'il y a derrière. Et dans la Torah aussi, il y a le même système bien qu'avant, que la Torah nous dit, faites-nous confiance, faites le nécessaire, et vous allez, ça va marcher. Bien sûr qu'avec ça, il faut essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais quand même, il y a cette notion de faire. Donc, à la Rosh Hashanah, on nous dit de sonner le shofar. Grâce à la sonnerie du shofar, vous allez changer des choses. Donc, l'année, le destin de l'année dépend des shofars. Et plus que ça, pas seulement le destin, aussi la position de Dieu dans le monde. Et ça, c'est un sujet difficile. Moi, j'ai une influence sur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu bête de dire ça. Et pourtant, le judaïsme nous dit que l'homme, et surtout dans la communauté, les différentes choses qu'on fait dans la communauté, on a la possibilité de changer ce que Dieu il fait. Et même par rapport à Dieu lui-même, je ne vais pas rentrer dans ce sujet. C'est un sujet assez difficile dans la chassidut. Mais il y a, l'homme, il a la possibilité. Mais quel rapport? L'homme, il est tout petit. Et pourtant, Dieu, il a choisi, il a voulu de considérer l'homme. Et donc, à partir de là, l'homme, il est très important. Donc, alors, si on a ces bases, que l'homme est très important, et donc, l'acte de l'homme est très important, donc, alors, le jour de Rosh Hashanah, grâce au shofar, bien sûr qu'il faut comprendre à quoi correspond le shofar, mais grâce au shofar, on peut changer des choses. Donc, d'un coup, l'homme, il est très important. Ce n'est pas un petit rien du tout qui il est là à la grâce de Dieu, ce qui est vrai aussi. Mais ça veut dire que Dieu lui donne des pouvoirs, donc il est très important. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est le jour de grand pardon. Pourquoi pardonner? Parce que quelque part, c'est parmi les exemples que ça, ces exemples nous expliquent un petit peu mieux les choses, c'est comme un amour de père et fils, un vrai amour. Donc aujourd'hui, on a perdu un petit peu cette notion. Le lien parfois entre parents et enfants, c'est un lien plutôt un lien logique. Tu m'as donné ça, je te donne ça, mais sinon, alors on coupe. Parfois, on voit ça, mais le vrai lien entre père et fils, mère et fils aussi, c'est pareil, c'est qu'il y a un lien très profond. À tel point que même si que le fils il fait des choses opposées à la volonté de son père, quand même, le père il continue à l'aimer autant qu'avant. Ça veut dire que l'amour ne change pas. C'est exactement pareil. Seulement que ça passe quand même par tel acte. Parfois, on ne voit pas l'amour profond parce qu'il y avait tel et tel acte qui a dérangé. Mais dans le fond, alors, il faut révéler ces fonds. Mais dans le fond, c'est pareil. C'est le même amour, si tu fais ou tu ne fais pas. Donc, alors ça, c'est le jour de Kippour. L'amour malgré tout. Alors, donc, puisqu'il y a l'amour malgré tout, alors même si on a fait des fautes, bien, on nous aime. Alors, c'est ça la base de cette idée de pardon. Donc, Rosh Hashanah d'un côté, Kippour de l'autre côté. Rosh Hashanah d'un côté, c'est le jour où il donne le pouvoir à l'homme. L'homme, il a la possibilité infinie de faire des choses. Encore, c'est un sujet très large, mais j'essaie de résumer en quelques mots. Yom Kippour, c'est le jour qui représente l'amour infini. Donc, alors, même si on a fait des choses qui ne sont pas correctes, et pourtant, c'est pardonné. Alors, si c'est comme ça, alors tout va bien, alors pourquoi il faut faire d'efforts? Non, Dieu, il a créé un monde où il y a des règles, où il faut savoir que malgré l'amour qui est déconditionné, quand même, il faut rentrer dans le système, il faut arranger nos problèmes, il faut arranger nos dossiers, il faut arranger les relations qui mènent quelque part, qui se passent par tel et tel acte. Alors, d'une part, c'est vrai que l'homme, il dépasse l'importance de l'homme et la force que Dieu il donne à l'homme, dépasse toute limite. C'est pour ça qu'il a la possibilité de faire, et ça c'est ce qui représente Rosh Hashanah. Yom Kippour représente les notions d'amour infini, et c'est pour ça qu'il y a les jours, c'est les jours de pardon. Mais entre les deux, puisque Dieu il a quand même créé un monde et le temps, de nous des choses, donc entre les deux, il y a des choses à faire pour que non seulement que l'amour soit inconditionnel, que ce soit aussi dans les règles. Ça veut dire qu'il y a l'amour, mais quand même je fais ce qu'il faut que je fasse. Donc alors, mais avec quelle idée je peux me rattraper avec les deux notions de Rosh Hashanah d'un côté et Kippour de l'autre côté. J'espère que c'était un petit peu clair parce que c'est des sujets qu'on peut dire beaucoup de choses par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on arrive, on est dans cette période de 10 jours de repentance, mais ce qu'on dit qu'il y a 10 jours entre et entre, ça veut dire entre la force, entre l'idée particulière de Rosh Hashanah et entre l'idée particulière de Kippour, il y a 10 jours, y compris Rosh Hashanah et Kippour, qu'ils ont les deux notions, d'une part ce qu'il y a de spécial dans Rosh Hashanah et dans Yom Kippour, et ce qu'ils font partie des 10 jours. En tout cas, pour revenir à notre sujet, les 10 jours, donc on a 10 jours, mais plus particulièrement on a 7 jours, et que les 7 jours, on essaie d'arranger, de revenir, d'arranger les choses, et revenir à notre habitude. Donc malgré la force que l'homme il a de changer les choses, d'une part, quand même, il doit rester dans les règles et faire les choses dans les règles, parce que c'est comme ça que Dieu il a créé le monde, et c'est comme ça que la nature demande que même si on a le pouvoir de faire les choses extraordinaires, mais il faut quand même rester, respecter les règles. Et c'est malgré l'amour qu'on a, qui représente par Yom Kippour, il faut quand même faire les choses dans les règles. Donc, alors, c'est ça l'idée, encore je répète, peut-être je répète trop fort, Rosh Hashanah d'un côté, Yom Kippour de l'autre côté, c'est ça qui crée le jour de milieu, que c'est les 10 jours de Tshuva, qu'on a la possibilité d'arranger, mais cette fois-ci, on nous demande de vraiment arranger, de ne pas dire que puisqu'on est, on a ces possibilités, ces forces, donc à ce moment-là, il ne faut pas faire et arranger. Alors, au milieu, on a ce Shabbat aussi, parce que ça fait partie de Tshuva, selon les Arizal, tous les dimanches de 16 jours, de 10 jours, ou plutôt de 7 jours de Teshuva, il arrange le dimanche. En fait, on est en train de réparer le dimanche, on essaye de faire un meilleur dimanche, un meilleur lundi. Et au milieu, on a Shabbat. Et c'est vrai que le Shabbat qui répare le Shabbat. Alors, le Shabbat qui répare le Shabbat, c'est un Shabbat particulier pour plusieurs raisons. Ce Shabbat il s'appelle aussi Shabbat Tshuva. Alors, parmi les idées, d'une part, c'est Shabbat Tshuva, parce que Shabbat, c'est, de toute façon, Shabbat, c'est un jour où on essaye de se ressourcer, tout le Shabbat. Toute la semaine, on travaille, on est plutôt matériel, et c'est ça la volonté de Dieu, d'être dans un monde de matériel, d'être présent, de faire ses affaires. Dieu il a créé un monde. Et notre but, c'est de vivre dans ce monde, de vivre bien dans ce monde et faire rentrer dans les règles du monde. Seulement qu'il faut savoir respecter les uns et les autres et d'autres lois qu'il y a dans les affaires. Mais Shabbat, c'est plutôt une période où on se ressource. Donc ça, c'est une notion de tshuva, quelqu'un qui revient à lui-même, qui revient à sa spiritualité. Ça, c'est la notion de Shabbat et tout le Shabbat. Mais Shabbat de Teshuvah, c'est quelque chose encore plus spirituel. Dans ce Shabbat, on lit une phrase qui dit « Shuvah Israël ad Hashem Elokecha »« Retourne Israël jusqu'à ton Dieu ». Et la Chassidut pose la question « Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à ?» Il y a une adresse « Retourne jusqu'à ». Alors, on explique, et une des manières d'expliquer, c'est comme ça. Que normalement, dans tous les domaines, il y a des choses proches, il y a des choses loin. Il y a des choses faciles, il y a des choses difficiles. Il y a des choses que, pour moi, c'est facile, je le fais avec plaisir. Il y a des choses que j'ai du mal à les faire. Je me renforce pour les faire. Mais dans le judaïsme aussi, il y a des choses que c'est facile, c'est agréable. Il y a des choses que c'est difficile. D'ailleurs, ça fait partie de notre vie, qu'on fait même les choses difficiles. Alors, à ce moment-là, c'est bien beau, mais le but, c'est que rendre les choses difficiles faciles ou même agréables. Ça, c'est le but de... Ça veut dire que même si que c'est très important de le faire, même si que c'est difficile, mais le but, c'est que les choses soient finalement agréables et accessibles et agréables. C'est ça l'idée de Hachem Elokecha, c'est deux noms de Dieu qui là représente une notion proche, et l'autre elle représente une notion loi. Donc Dieu il est proche de moi dans le domaine où je me sens proche, et Dieu il est loin de moi dans le domaine où je me sens loin, parce que quand même l'homme il est limité, et chacun selon ses notions, et selon sa nature, et selon son travail, il est proche ou il est bien loin. Et le but, c'est pouvoir avancer. Et ce qui était loin, que ce soit proche. Ce qui était difficile hier, ce soit agréable aujourd'hui. Et donc plus facile. Facile, ça peut être au niveau physique. Facile, ça peut être dans d'autres domaines. Mais ça, facile ou difficile, ça peut être au niveau de volonté, de plaisir. Il y a des choses que je n'ai pas de plaisir là-dedans, je le fais. Et l'idée de cette période... Shabbat, comme on a dit tout à l'heure, que l'idée de Shabbat, c'est de se ressourcer et de retrouver sa spiritualité et la profondeur, spiritualité et profondeur qu'on a en nous, mais ça aussi c'est limité. Je peux trouver quelque chose, m'approcher à une idée, mais d'autres idées, je reste loin. Mais si j'arrive à m'approcher à quelque chose qui était vraiment loin de moi, ça, c'est le but de Shabbat Shuva. Ça veut dire que j'ai vraiment fait un travail de Shabbat. Ça veut dire que, comme on a dit, Shabbat, l'idée de Shabbat, c'est s'approcher de la spiritualité ou bien approcher la spiritualité vers nous. C'est pour ça que Shabbat, on mange bien. Et pourtant, ce n'est pas la même nourriture que la semaine. Il y a une histoire biblique qui raconte qu'il y avait un sage qui... Un grand de nos juifs était invité chez lui et il a beaucoup aimé la nourriture. Il a dit, mais il y a quelque chose, un ingrédient que vous avez mis dans la nourriture que moi je ne trouve pas comment vous faites que ce soit aussi bon. Alors il a dit, j'ai un ingrédient spécial qui s'appelle Shabbat. Ça veut dire Shabbat, c'est un goût spécial. On peut faire la même chose, mais c'est Shabbat. Shabbat, c'est un goût spécial. Quelque part, c'est une idée qu'on arrive à spiritualiser le matériel, ou bien matérialiser la spiritualité, comme vous voulez. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on arrive à accès à un univers au-delà de nous, et pourtant, c'est dans l'esprit matériel. On mange, on boit, on dort, on fait des choses d'une façon de plaisir. Shabbat, l'idée de Shabbat, c'est la notion de plaisir. Mais quand donc on arrive à Shabbat Shuva, donc dans cette période qu'on répare notre vie, c'est qu'on arrive à un autre niveau de plaisir. C'est qu'on n'arrive pas toute l'année cette fois-ci. On essaye d'accès et d'amener et d'installer en nous que même les choses loin soient proches. Okay, on a fait un petit tour dans cette notion. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on puisse utiliser ces jours grandioses, qu'ils ont beaucoup de profondeur, beaucoup de qualité, beaucoup de potentiel pour l'année, que cette année elle soit une bonne année dans tous les domaines, personnels, général, et surtout que le monde a besoin très très fort d'un changement radical. C'est pas facile et tout ça c'est dans nos mains parce que l'homme il agit et réagit par rapport à tout et c'est dans sa main mais aussi dans nos travail spirituel et surtout quand on est dans une période on peut pas changer le monde et pas tout le monde peut changer le monde, il y a certaines personnes que peut-être ils ont la clé de changer le monde mais nous on change le monde par nos petits actes matériels ou spirituels. Et surtout cette période entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc allons-y, on va faire notre petit effort pour nous améliorer d'une part. Et puisqu'on est à la veille de Shabbat Shuvah, que cette amélioration soit aussi avec plaisir, que j'ai plaisir dans ce domaine spirituel. J'ai plaisir dans d'autres choses que j'ai du mal à les faire, mais là, je trouve, j'arrive à installer le plaisir dans la paix, dans tout le bonheur et aussi la paix qu'on arrive mal à installer en nous, la paix, la compréhension, etc. Et ça, c'est la base pour le monde meilleur, le monde de la paix et un monde de Mashiach. Encore une fois, c'est l'occasion de vous souhaiter une bonne et douce année, une année de joie, une année de paix, une année de santé, une année de Mashiach. Merci et Shabbat Shalom.
Fête et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.